sais pas encore.
Voilà, donc nous sommes aujourd'hui avec Chloé Peterman à Tulefi, dans son atelier, et on voulait discuter, elle est céramiste d'art, et en fait on voulait justement discuter un petit peu avec elle de toutes ses activités, et puis d'abord de ses activités donc de céramiste. Est-ce que tu peux nous dire, Chloé, depuis quand tu es ici installée à Tulefi?
Je suis dans cet atelier à Tulefi depuis environ 4 ans. Je suis arrivée ici après avoir passé 13 ans à Genève, où j'ai fait mes études supérieures de céramique et où j'ai eu mon atelier. Mon premier atelier était à Genève.
Et est-ce que tu peux nous expliquer justement un petit peu, là, puisqu'on est dans ton atelier, ton univers de création, ce que tu façonnes, ce que tu fabriques ici?
Alors, au début, quand je suis sortie des arts déco à Genève, pendant des années, j'ai eu une production de porcelaine coulée. Qui étaient des objets, vraiment des objets utilitaires, des objets pour boire le thé, des objets pour la maison, avec du décor. J'étais beaucoup, beaucoup intéressée à cette époque par le décor. Et puis, petit à petit, dans l'atelier, suite à la cuisson d'une pièce où il y avait un défaut, où il y avait beaucoup de bulles, voilà, les bulles sont entrées dans mon monde, on va dire, et est née cette série des bols bullés, que j'appelle comme ça, et qui sont en fait des pièces où j'ai essayé d'apprivoiser un défaut, où donc je crée des pièces qui, à la cuisson, cloquent comme une peau brûlée, et où, après cette cuisson à haute température, on ponce au diamant la surface des bols. Et on arrive à des objets qui sont comme avec de la mousse, comme avec du lichen, comme vieillis. J'aime beaucoup quand les pièces ont cet aspect, quand elles sont des pièces contemporaines, mais qu'on dirait un vieil objet trouvé chez un antiquaire ou dans une jonque. Et voilà, là, souvent les gens qui connaissent mon travail le connaissent par ces bols-là. Mais depuis plusieurs années, j'ai aussi un travail sculptural avec la série des meubles paysages, qui sont des sortes d'objets sur pied, sur lesquels des formes un peu parallépipèdes, rectangles, sur lesquels naissent des paysages, et où il y a un très gros, enfin où le travail est beaucoup dans les mailles, dans des superpositions des mots. C'est une sorte de poésie formelle comme ça. Et pendant le confinement, enfin depuis cette histoire du virus, est née une toute nouvelle série. Et si on m'avait dit que je ferais ces pièces-là il y a 5 ans, j'aurais dit mais tu es fou. C'est des pièces anthropomorphes en fait et animales, donc on est là carrément dans des choses narratives. J'essaye, c'est des pièces qui naissent très très rapidement dans l'atelier, qui sont vraiment une recherche d'une émotion, d'un geste, d'une forme rapide avec la main. Donc modeler vraiment très vite. Et après, le défi, c'est quel émail, quelle teinte, quelle couleur pour révéler ces formes-là.
Oui, et puis je m'aperçois que tu fais aussi des pièces, de grandes pièces.
Oui, dans la série Bullet, petit à petit, au-delà des bols, sont nés ce que j'ai appelé justement les bols géants, les coupes, où là, on est effectivement dans des objets qui sont plus du tout utilitaires, qui ont presque l'ampleur d'une sculpture, d'un objet décoratif, mais qui, de par leur taille, permettent de s'éclater vraiment sur le travail de surface, puisqu'on a tout le loisir là d'explorer la bulle et le ponçage sur des grands volumes.
Oui, alors, en même temps, Tulefi, c'est quand même un lieu particulièrement dense en création des céramistes, des potiers, des potières. Est-ce que tu peux nous expliquer justement cet environnement assez exceptionnel?
Alors oui, c'est sûr, moi je connais Tulefi depuis plus de 4 ans, puisque j'étais en relation avec un homme qui vivait ici, même quand j'étais à Genève, donc je faisais pas mal d'allers-retours, et ça m'a... C'est les hasards de la vie qui ont fait que j'étais en lien avec ce lieu qui se trouve être un terreau de céramique incroyable. Et avec la maison de la céramique, avec plein de céramistes installés ici depuis très longtemps, plus tous ceux qui, après avoir fait la formation, ont envie de rester. Donc plein de petits jeunes qui arrivent, qui s'installent ici. Donc tout ça crée effectivement une dynamique qui est assez particulière, avec des univers très différents. Au sein même de ce milieu de la céramique, Il y a des gens qui font des choses très très différentes les uns des autres, de l'utilitaire, de la sculpture, de l'installation. Il y a des gens qui se revendiquent vraiment du milieu de l'art contemporain, d'autres qui font des objets à vivre pour tous les jours et c'est ce qu'ils aiment faire et ils le font très bien. Donc il y a tout un monde comme ça. Et c'est vrai que à Dieulefit, avec la maison de la céramique, avec les expos qu'il y a de façon régulière, les vernissages où on se retrouve tous, bah, ça fait un. Il y a vraiment un beau petit monde, quoi, et on se connaît à peu près tous, quoi.
Oui, voilà, c'est un écosystème quand même très très important. Et tu as justement des voisins qui sont aussi céramistes. Donc vous discutez régulièrement parce que c'est un travail assez solitaire en même temps, ton travail.
Alors, c'est sûr que le travail de. Oui, quand on est artiste comme ça dans son atelier, c'est quelque chose d'assez solitaire. Et je crois que, bon, si on fait ce métier, c'est qu'au fond, ça nous plaît un peu d'être comme ça, indépendant et à cheminer seul comme ça dans l'atelier. Mais par contre, c'est clair que c'est hyper agréable d'avoir des voisins céramistes. Bon, bah, moi, j'ai la chance d'avoir Jeanne et Guillain à côté de moi. Et de temps en temps, oui, entre deux portes, on papote. Après, je sais qu'on est tous les deux, enfin, tous les trois, moi, avec tout ce que je fais en associatif à côté. Eux, avec le boulot qu'ils ont à côté à la poterie de Kliouskla, le temps d'atelier est restreint et précieux. Donc, on sait, et c'est assez chouette parce qu'on le comprend très bien de l'autre et du coup, on respecte ce temps. On papote 5 minutes et après, hop, chacun retourne de son côté pour bosser à l'atelier.
Oui, parce que là, tu viens de l'évoquer, à côté de tes activités artistiques, tu as aussi une très forte implication associative autour de la question des réfugiés, migrants, exilés. Bon, aucun de ces mots ne correspond en fait aux réalités humaines qu'ils essaient de décrire. Est-ce que tu peux nous présenter donc le projet de la maison d'accueil ainsi que le festival que tu organises chaque année?
Oui, effectivement, ça fait 4 ou 5 ans que même peut-être un peu plus maintenant, que la question migratoire est devenue assez centrale dans ma vie, dans cette question de l'accueil. On a monté une association ici à Dieulefit qui s'appelle Passerelle, qui est une association avec laquelle on accueille depuis 2 ans une famille exilée, un couple avec 4 enfants. Donc on essaye d'accompagner au mieux de ce qu'on peut dans leur démarche, dans leur vie ici en France. Mais on est aussi effectivement porteur d'un événement qui s'appelle Les Murs ne servent à rien, dont l'édition zéro avait eu lieu à Genève, dans le lieu où je vivais avant, enfin dans le lieu où j'avais mon atelier. Et Les Murs ne servent à rien, c'est un week-end de films, de lectures, de conférences, de radio, d'écoute publique de radio, d'expo parfois, selon les années, autour des questions de migration. Et l'idée de ce week-end, c'est de croiser les médiums et croiser les points de vue autour de la migration pour toujours en choisissant des contenus de grande qualité pour sortir soit des clichés, soit des idées toutes faites, soit de certaines questions qui sont effectivement très compliquées dans ces sujets-là, et essayer de un peu voilà, démêler le fil, trouver des pistes, faire croiser des regards, en passant voilà, par la photo, par le documentaire, par un bon reportage, et aussi cette idée de regarder peut-être quelque chose globalement. Donc par exemple, l'année dernière, Julia nous a donné 2 conférences, une conférence sur le droit d'asile en France qui durait 20 minutes. Donc là, c'est vraiment l'idée de faire de la vulgarisation pour que toute personne qui est dans la salle puisse se faire un peu une idée de, OK, quand une personne arrive ici, qu'elle demande l'asile, qu'est-ce que ça va être son parcours? On fait ça en 20 minutes, donc c'est tout à fait digeste pour chacun, mais c'est quelque chose d'un peu cours théorique un peu global, et parallèlement à ça, on va lire des extraits d'un bouquin très précis qui parle d'une situation toute petite, mais c'est vraiment cette idée que le tout grand comme le tout petit est intéressant pour tisser ce panorama de qu'est-ce que c'est migrer, qu'est-ce que c'est partir de chez soi, et surtout qu'est-ce que c'est ce phénomène dont on pense qu'il est en crise ces dernières années et qui en fait a toujours existé et que les gens ont toujours. Se sont toujours déplacés sur cette planète, dans des contextes très différents, bien sûr, mais le fait que des gens aient envie de quitter chez eux pour aller ailleurs, voir comment ça s'y passe, c'est pas très nouveau.
Et justement, d'où vient enfin, je trouve le nom très beau, quoi. Les murs ne servent à rien. C'est toi qui l'as trouvé ou tu l'as chopé ailleurs?
Oui, j'ai chopé ailleurs, Les murs ne servent à rien, c'est extrait d'un film, si je ne me trompe pas, oui, c'est extrait du film Les Messagers, qui est un très beau documentaire sur Melilla. Et c'est un des gendarmes de la Guardia Civile, dans une des interviews dans ce film, qui dit, les murs ne servent à rien, il y a une suite, les murs ne servent à rien face à des hommes qui ont fait 1000, 2000 km. Et lui, il fait partie des gens qui gardent la frontière à Melilla, donc ça veut dire cette triple frontière, on en a fait une, on en a mis une deuxième, on en a mis un troisième avec des barbelés autour, et qui te dit, ben non, oui, nous, notre rôle, c'est de faire que cette frontière, elle soit étanche, mais en fait, vu les gens face à qui on est, qui ont traversé la moitié de la planète, bah eux, ils considèrent que c'est pas ça qui va les arrêter, quoi. Donc c'est ça, j'ai pris un bout de sa phrase.
Ouais, c'est très très beau. Et est-ce que tu relis tes deux univers, celui de la céramique, celui de ces actions de solidarité, ou est-ce que les céramistes du coin suivent un petit peu ce que tu fais, ils essaient d'y participer?
Alors les céramistes du coin, il y en a plusieurs qui sont tout à fait au courant de mes activités et qui soutiennent. Certains sont donateurs dans mon asso, par exemple, ou en tout cas me demandent, savent que je vais à Lyon dans un squat de mineurs, ils me donnent des habits, ils me donnent des sous. Quand j'étais à Briançon, j'ai souvent aussi fait des appels sur Facebook. Ah, on a vraiment besoin de ça, vous pouvez m'envoyer de l'argent, notamment la dernière fois, là, pendant l'occupation, quand on galérait. Pour faire que les gens qui arrivent, notamment les Afghans et les Iraniens, puissent rentrer dans les bus et dans les trains. Donc ils devaient faire des tests PCR, c'était payant, enfin bref. Et là, je sens les gens autour de moi qui sont réactifs. Et en plus, il y a une chose qu'on a faite, et c'était même avant la création de l'association Passerelle, et c'était à l'initiative de Marianne Castelli, une de mes très bonnes amies qui est céramiste, sur le territoire aussi ici. Elle avait suivi l'exemple de Potters for Alep, qui était un site, une page Facebook sur Internet qui s'était créée des céramistes anglais. Qui avait eu cette idée de faire des ventes aux enchères de céramique sur Facebook. Et tous les gains, absolument 100% du gain, étaient donnés à des associations qui soutenaient à l'époque de la guerre en Syrie. Et nous, on a suivi cet exemple et on a créé Céramistes pour les réfugiés. Et du coup, c'est pas véritablement une structure, parce qu'en fait, il n'y a pas de structure juridique, mais ça, c'est la magie d'utiliser les réseaux à bon escient, on va dire. Parce qu'en fait, faire une vente aux enchères sur Facebook, bah, c'est hyper facile, quoi. Tu postes la photo de la pièce qui est dans ton atelier, tu la prends en photo avec ton pauvre téléphone, tu la mets en photo, tu mets un prix de départ, et puis après, les gens en commentaire, ils font monter les enchères. On donne un horaire pour l'enchère, on donne une fin. Et à la fin, l'entièreté du prix est reversée à différentes assos. Et on a, en plusieurs ventes aux enchères, on a récolté plus de 10 000 euros pour différentes associations. Par exemple, notre association Passerelle en a profité, mais le Refuge solidaire de Briançon, la maison Bessouli à Briançon, la maison Elisa de Vercheny, dans le Diois, différents lieux d'accueil comme ça de personnes en exil, plutôt en France. On a plutôt soutenu des choses en France et aussi SOS Méditerranée.
Bah écoute, merci Chloé.
Avec plaisir.
Et à bientôt.